des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve François-Pierre Nizeri.
Chers amis auditeurs de Canal Académie, bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée au parcours d'un écrivain que le temps semble avoir un peu effacé de nos mémoires, en dehors bien entendu du monde universitaire, et qui pourtant reste emblématique d'une époque à la croisée des chemins, entre deux siècles, celui du Roi Soleil et celui des Lumières, le 17e et le 18e. Alain-René Lesage, ce grand homme de lettres dont nous allons parler tout au long de cette chronique, est un personnage qu'il n'est pas toujours simple de situer. Est-ce un classique? Est-ce un moderne? Est-ce déjà un homme des Lumières? Le Lagarde et Michard, ce fameux manuel de littérature que beaucoup d'entre nous ont eu entre les mains, le place dans le volume consacré au 18e. Quoi de plus logique puisque son œuvre est apparue pour l'essentiel dans la première moitié de ce siècle, jusqu'à sa mort en 1747. Pourtant, Lesage, écrivain relativement tardif, avait déjà 32 ans en 1700 et avait donc vécu les trois dernières décennies du XVIIe, marquées par la querelle des anciens et des modernes, mais encore imprégnées de l'esprit de la littérature classique. 1668, l'année de sa naissance, est celle de l'avare de Molière et des six premiers livres des Fables de La Fontaine. Lors de la parution des Caractères de la Bruyère, Lesage a déjà 20 ans. Il a 23 ans lorsque Racine achève Athalie. Entre deux siècles, entre deux modèles de pensée, entre deux terres, l'une de naissance, l'autre d'élection, la Bretagne, puis la région parisienne. Entre deux sources d'inspiration, l'Espagne, derrière laquelle se cache la France. Entre deux genres littéraires, le roman et le théâtre, Alain-René Lesage est l'homme de l'entre-deux. Il est et restera marqué par cette ambivalence. Résumons son parcours d'homme de lettres et d'homme tout court. Alain-René Lesage naît le 8 mai 1668 à Sarzeau dans le Morbihan, une petite ville qui était à l'époque le siège de la sénéchaussée royale, devenue aujourd'hui le chef-lieu de canton de la presqu'île de Ruisse, non loin de Vannes, sur le flanc sud du golfe du Morbihan. Cette petite ville, j'ose le dire en passant, est aussi ma propre source familiale. Mais bon. Le père d'Alain-René Lesage, Claude Lesage, est avocat, notaire et greffier de la cour royale de Ruisse. Son enfance bretonne est donc bercée dans un milieu plutôt bourgeois, celui de notables locaux, certes privilégiés mais sans luxe excessif, comme en témoigne la maison natale du futur écrivain, aujourd'hui racheté fort heureusement par la commune de Sarzeau, mais qui n'a rien d'un château et que Maxime Ducamp, séjournant à Sarzeau en compagnie de Flaubert, qualifie de « pauvre maison noircie par le temps ». Une maison bourgeoise malgré tout, dont Alain-René Lesage, malheureusement, ne profite guère par la suite. Orphelin de mère en 1677, de père en 1682, il fut évacué, entre guillemets, vers le collège des Jésuites de Vannes, spolié par ses tuteurs, et ne remit plus jamais les pieds, en tous les cas durablement, dans sa ville natale. Cette spoliation, et puis l'injustice dont il fut, semble-t-il, victime par la suite, en étant renvoyé d'une ferme bretonne dont il était devenu gestionnaire, tout ceci a nourri en lui une haine féroce contre les traitants, les financiers de l'époque, qu'il exprimera plus tard dans ses écrits. C'est apparemment vers 1690 qu'il arrive à Paris pour y faire des études de droit et de philosophie. Inscrit au barreau, il aurait, semble-t-il, peu exercé le métier d'avocat. J'utilise à dessein le conditionnel car on a peu de certitude absolue sur cette période de sa vie. Marié le 28 septembre 1694 à Marie-Élisabeth Huillard, fille d'un bourgeois de Paris, dont il eut 4 enfants, il aurait alors quitté Paris pour se mettre au service d'un fermier général à Vitré et se lancer dès 1695 dans l'aventure littéraire en publiant à Chartres les lettres galantes d'Aristénite, d'après une version latine de l'original grec, sur le conseil de son ami Antoine Danchet, futur académicien, qui l'aurait connu à l'université à Paris et qui était alors professeur de grec à Chartres. Le peu de succès de ce livre ne le découragea pas. De retour à Paris vers 1696, il aurait été avocat jusque, semble-t-il, en 1698, avant de se consacrer pleinement à l'écriture, grâce notamment à la pension que lui alloue l'abbé de Lyonne, qu'il conservera jusqu'à la mort de ce dernier en 1721. Cette pension d'environ 600 livres lui permet sinon de vivre luxueusement, du moins de survivre et surtout de préserver cette indépendance à laquelle il restera attaché toute sa vie. Il refuse même, au nom de cette indépendance, les faveurs du maréchal de Villars. Commence alors sa vraie carrière d'écrivain. On peut parler de carrière puisqu'il en fera effectivement son métier. Et son premier contact avec ce qui deviendra une source essentielle de son œuvre, la littérature espagnole, vers laquelle le pousse l'abbé de Lyonne, lui-même fils d'un ancien ministre des Affaires étrangères du temps de Mazarin. Le succès littéraire de Le Sage vient d'abord en 1707 avec Le Diable boiteux, qui inaugure son travail de traduction et de réécriture d'œuvres espagnoles. Le Diable boiteux, l'étrange et fascinante histoire d'un étudiant transporté par un diable malicieux sur les toits de la ville pour observer le comportement des hommes qui l'habitent, est inspiré, du moins en partie, par le Diablo Cojuelo de Vélez de Guevara, datant de 1641. Le Sage en fait un roman original, dont il ne cache d'ailleurs pas les sources. Puis vient le théâtre. Turcaret, une satire impitoyable du monde de la finance qui lui vaut une hostilité très forte des traiteurs, lesquels tentent même de faire interdire la pièce. Elle sera malgré tout jouée le 14 février 1709 au Théâtre français, sur l'insistance du dauphin, le fils de Louis XIV, ce qui en dit déjà long sur les rapports compliqués à l'époque entre la finance et le pouvoir royal, lequel avait tendance à renvoyer la responsabilité de la misère du peuple sur les fermiers généraux. Et puis commence l'écriture de ce qui restera sans doute l'œuvre majeure de Le Sage, l'histoire de Gil Blas de Santillane. Elle aussi inspirée d'un, voire plusieurs ouvrages espagnols, notamment le Marcos de Obregón de Vicente Espinel, datant de 1618. L'écriture de ce roman se fait en plusieurs étapes qui s'étalent dans le temps. Les 6 premiers livres sont publiés en 1715, les 3 suivants en 1724 et les 3 derniers en 1735. À chaque étape, le roman évolue. Au départ, il est vraiment picaresque. Il raconte à la première personne l'histoire d'un picaro, autrement dit d'un marginal plus ou moins naïf. Sauf que normalement, le picaro reste marginal, alors que le sage en fait, lui, dans les livres suivants, ceux de 1724, un exemple d'ascension sociale, avant d'en faire, dans ceux de 1735, presque un modèle de sagesse et de distanciation. Évidemment, l'œuvre de Le Sage ne se limite pas à ces 3 ouvrages qui ont fait sa réputation par-delà les siècles. Le Diable boiteux, Turcaret et Gil Blas de Santillane, et qui sont aujourd'hui le plus lu et joué sur scène. Il faut aussi citer, notamment, les nouvelles aventures de l'admirable Don Quichotte, sorti en 1704, une reprise originale d'un texte qui était lui-même une suite de l'œuvre de Cervantes, écrite par l'écrivain espagnol Avellaneda, d'ailleurs publié en 1614, avant même que Cervantes ne publie la seconde partie de son vrai Don Quichotte, qui est un comble. Parmi les romans, il faut également citer l'histoire de Guzman d'Alfarache et les aventures de Robert Chevalier dit de Beauchesne, l'histoire d'un flibustier au Canada, paru en 1732, ainsi que le bachelier de Salamanque, Esteban González, et la valise trouvée, publié de 1736 à 1738. Quant aux pièces de théâtre, citons notamment Crispin, rival de son maître, et La Tontine, en 1707, et puis aussi, Et surtout, devrais-je dire, car c'est un aspect essentiel de l'œuvre de Le Sage, tout le théâtre de la foire, des pièces écrites entre 1712 et 1730. J'insiste sur cette partie de son œuvre, le théâtre de la foire, car on a beaucoup dit qu'elle répondait surtout à un besoin alimentaire de l'auteur. Ce n'est pas faux, bien sûr, mais ce n'est pas si simple. Le Sage, il est vrai, est un écrivain qui a toujours voulu vivre de sa plume et ne jamais dépendre des puissants pour s'en sortir. Mais c'est bien là l'une des nombreuses ambivalences du personnage. Le théâtre de la foire, Le Sage y est venu, il ne faut pas l'oublier, en réaction aux relations difficiles qu'il entretenait avec le milieu officiel des comédiens. Ce milieu, notamment le théâtre français, n'a eu de cesse de pourchasser le théâtre de la foire en faisant interdire sans vergogne tout ce qui pouvait les concurrencer, notamment le dialogue en 1706, la parole même en 1707, le chant en 1709. Chaque fois, les forains trouvent une parade qui leur permet de résister. À l'interdiction du dialogue, ils répliquent par le monologue. À celle de la parole, ils répliquent par le chant et la danse. À l'interdiction du chant, ils répliquent par le théâtre des marionnettes et le système des écriteaux. Tout ceci avant qu'en 1714, l'Académie royale de musique ne finisse par accorder à nouveau le droit de chanter aux forains. Pour Le Sage, le théâtre de la foire, ce n'est pas simplement un moyen de conquérir un public, donc de gagner sa vie. Du reste, il garde une distance prudente vis-à-vis de ce qu'on appelle le goût du public, qui est loin d'être uniforme et ne fait, selon lui, que refléter sa diversité. Pas question donc pour lui de se plier à la loi de la demande. Certes, contrairement à son ami Danchet qui préfère la tragédie classique, Le Sage opte pour la comédie, pour le rire, pour l'ironie, supposé susciter davantage l'adhésion d'un public populaire. Pour autant, l'objectif de Le Sage, lorsqu'il se met au théâtre de la foire, n'est pas, en tous les cas pas uniquement, de séduire, mais bien de renouveler l'image de la comédie et de faire du théâtre de la foire un genre littéraire à part entière en lui donnant un ton particulier. Ce sera l'opéra comique dont Le Sage est considéré comme l'inventeur. En écho à cette forme théâtrale chère à Le Sage, je vous propose une petite pause.
Vous qui voulez des chansonnettes, venez, venez en faire emplette. Fils et garçons, fermez la bouche, ouvrez les oreilles, et vous entendrez des merveilles. Chanson, chanson. Un philosophe d'importance va changer l'humeur de la France. Par ses leçons, on verra sa morale utile, réformer la cour et la ville. Chanson, chanson. Des apprentis de la finance, ils corrigent l'impertinence et les façons. Les petits commis de province ne prendront plus des airs de prince. Chanson, chanson. On verra les époux fidèles s'aimer comme des tourterelles. À l'unisson, le monde se fera scrupule de les tourner en ridicule. Chanson, chanson.
Cette passion de Le Sage pour un genre littéraire qu'il invente, en fait-il un homme de théâtre avant tout ? Est-il dramaturge plus que romancier ? Encore une ambivalence du personnage difficile à cerner. Il n'y a pas chez Le Sage de hiérarchie entre les deux genres. L'un influence l'autre et réciproquement. La comédie, même à la foire, n'est jamais dissociée du romanesque. Il y a de la théâtralité dans chacun de ses romans. Mieux même, Le sage prend plaisir à déconcerter ses lecteurs en pratiquant le mélange des genres, notamment en insérant dans ses romans des récits intercalaires qui viennent malicieusement rompre le discours du narrateur et lui donner un sens différent par un regard extérieur. Lorsque le sage s'adresse au public à travers le théâtre, il sollicite de sa part plus qu'une réaction affective. Il sollicite une réflexion, un raisonnement critique, lesquels ne peuvent pas simplement venir de la représentation, de l'oralité, mais surtout de la lecture. Dans Gil Blas, au chapitre 5 du livre 10, le sage cite ainsi le jugement d'un gentilhomme sur une comédie. « Bien loin de juger d'une pièce que nous entendons pour la première fois, nous nous défions de ses beautés, tant qu'elle n'est que dans la bouche des acteurs. Quelque bien affectés que nous en soyons, nous suspendons notre jugement jusqu'à ce que nous l'ayons lu. Et véritablement, elle ne nous fait pas toujours sur le papier le même plaisir qu'elle nous a fait sur la scène. » Voilà bien du pur le sage, dont l'esprit critique, la distance qu'il met toujours entre son écriture et le monde qu'il observe, font la force de son œuvre et rendent d'autant plus pénétrante son ironie satirique. Le regard mordant, qui pour dire le moins, qu'il porte sur la société de son temps, sur les comédiens, il tentera en vain d'empêcher deux de ses fils de le devenir, sur les médecins, dans Gil Blas notamment, le docteur Sagrado, sacré en espagnol, le personnage du roman de Vicente Espinel, dont s'inspire le sage, devient le docteur Sangrado, ce qui signifie « saigner ». Par allusion à une pratique médicale de l'époque, dont le sage fait l'une de ses cibles préférées. Le regard encore plus dur qu'il porte sur les financiers, ces fameux traitants qui l'ont tant maltraité, sur les vanités des puissants, l'archevêque de Grenade par exemple, qui dans Gil Blas en prend pour son grade, ce regard mordant n'est pas simplement une attitude d'esprit, une réaction morale, voire politique. C'est aussi la marque d'un style, une originalité d'écriture qui anéantit toute accusation de plagiat, comme avait tenté de le faire Voltaire, dont les assertions furent réfutées par l'Académie française elle-même par la voix de Neuchâteau en 1818. Plus encore, ce regard critique de Le Sage en fait un écrivain d'aujourd'hui, un écrivain contemporain, dont les positionnements à l'égard des vices de la société sont d'une actualité brûlante. Turcaret et les personnages qui l'entourent pourraient parfaitement, en changeant de nom et d'habit, se retrouver dans un certain monde d'aujourd'hui. Je n'en dirai pas plus là-dessus. Et puis, l'écriture de Le Sage, la profondeur de sa réflexion, par-delà sa légèreté de ton et son ironie, donne à son œuvre une portée universelle, bien loin d'une étiquette locale, régionale ou nationale, dans laquelle on veut trop souvent enfermer les écrivains. Le Sage est-il breton ? De naissance, oui, bien sûr. Il est natif de Sarzeau, issu d'une famille bretonne. Mais ne nous méprenons pas. La bretonnité de Le Sage tient certainement davantage de son caractère indépendant, voire un peu rebelle, je n'ai pas dit têtu, que de son lieu de naissance. Ce caractère qui lui fait refuser d'ailleurs d'entrer à l'Académie française, je le rappelle au passage, alors qu'il y aurait eu toute sa place. Sa bretonnité, j'y reviens, tient aussi et peut-être surtout de son ouverture au monde, son talent d'explorateur, même s'il ne l'exerce que virtuellement. L'Espagne, le Canada, l'Orient et bien d'autres terres lointaines. Une ouverture au monde qui est depuis longtemps la marque de l'esprit breton. Difficile, décidément, même sur ce plan, de situer le sage. L'Espagne est présente dans son œuvre comme aucun autre pays. On pourrait donc le dire aussi espagnol. Mais cette Espagne-là ressemble tant à la France. Madrid, c'est Paris. Alors le sage est-il parisien ? Il a vécu à Paris, puis à Boulogne, l'essentiel de sa vie. Pour autant, son attitude, ses réactions dans ses écrits restent davantage celles d'un provincial maintenant une certaine distance critique vis-à-vis de la capitale. Provincial ? Le sage est donc resté breton, certes, mais sans qu'on puisse l'étiqueter, l'estampiller, sans l'accaparer dans une identité qu'il n'aurait sans doute pas acceptée comme telle. Que son pays natal, le pays de Ruisse, honore sa mémoire, c'est la moindre des choses. Mais sans oublier qu'il ne l'a jamais évoqué explicitement dans ses écrits. Mis à part quelques allusions perfides à des personnages de sa ville natale. Rolando, par exemple, dans Gil Blas. Contrairement à ce qui était parfois suggéré, aucune description, notamment de paysage, ne rappelle la Bretagne. Du reste, la description de paysage est d'une façon générale très absente d'un genre littéraire, fait surtout d'intrigues sur le modèle espagnol et de caractères sur le modèle français. Tant ces descriptions étaient à l'époque considérées comme relevant d'un art de l'ornementation, un art d'agrément un peu futile, comme d'ailleurs la poésie pure, qui n'avait pas la cote. Et pour compléter cette évocation du regard distant de Le Sage sur l'ornementation littéraire et sur les poètes en général, je vous propose, chers auditeurs, pour terminer cette émission, la lecture d'un extrait de Gil Blas, chapitre 13 du livre 7, dans lequel Gil Blas se moque de façon cinglante de son ami Fabrice Núñez, fils de barbier devenu poète et se voulant au-dessus du lot. Il y a, dans cette charge de Le Sage à l'encontre des vanités du monde des lettres, quelque chose où l'on peut parfois déceler un zeste d'autodérision, sur le métier d'auteur, par exemple, mais qui surtout reste une critique parfaitement transposable dans notre environnement actuel. En tous les cas, quelque chose qui, je l'espère, comme le souhaitait Le Sage, incitera, au-delà de l'écoute, à la réflexion, donc à la lecture, et à la relecture de Gil Blas de Santillane, ce monument de la littérature, et de l'ensemble de l'œuvre de Le Sage. La scène que nous allons vous interpréter, Fernand Guillot et moi-même, se situe au moment où Gil Blas, arrivé à Madrid pour tenter, après ses déboires avec l'archevêque de Grenade, d'y trouver un emploi auprès d'un homme d'importance, rencontre à la cour royale, dont il arpente les couloirs, son ami Fabrice, autrefois au service d'un administrateur d'hôpital à Valladolid. Son apparence, il est, je cite, « vêtu aussi proprement qu'un noble cavalier », le surprend. Il l'aborde et Fabrice l'invite aussitôt à visiter son bel appartement et le dialogue commence. Fabrice s'adresse à Gil Blas.
« Que penses-tu de mon ménage et de mon appartement ? Que penses-tu de mon ménage et de mon logement ? N'en es-tu pas enchanté ?
Oh oui, ma foi ! Il faut que tu ne fasses pas mal tes affaires à Madrid pour y être si bien nippé. Tu irrites l'envie que j'ai d'apprendre ce que tu fais.
Eh bien, je vais te contenter. Je suis devenu auteur. Je me suis jeté dans le bel esprit. J'écris en vers et en prose. Je suis au poil et à la plume.
Toi, favori d'Apollon, voilà ce que je n'aurais jamais deviné. Je serais moins surpris de te voir tout autre chose. Quel charme as-tu donc pu trouver dans la condition des poètes ? Il me semble que ces gens-là sont méprisés dans la vie civile et qu'ils n'ont pas un ordinaire réglé.
Tu me parles de ces misérables auteurs dont les ouvrages sont le rebut des libraires et des comédiens. Faut-il s'étonner si l'on n'estime pas de semblables écrivains ? Mais les bons, mon ami, sont sur un meilleur pied dans le monde. Et je puis dire sans vanité que je suis du nombre de ceux-ci.
Je n'en doute pas. Tu es un garçon plein d'esprit. Ce que tu composes ne doit pas être mauvais. Je ne suis en peine que de savoir comment la rage d'écrire a pu te prendre.
Ton étonnement est juste. J'étais si content de mon état chez le seigneur Manuel Ordóñez que je n'en souhaitais pas d'autre. Mais mon génie s'élevant peu à peu comme celui de Plaute au-dessus de la servitude, je composais une comédie que je fis représenter par des comédiens qui jouaient à Valladolid. Quoiqu'elle ne valût pas le diable, elle eut un fort grand succès. Je jugeais par là que le public était une bonne vache à lait qui se laissait aisément traire. Cette réflexion et la fureur de faire de nouvelles pièces me détachèrent de l'hôpital. L'amour de la poésie m'ôta celui des richesses. Je résolus de me rendre à Madrid comme au centre des beaux esprits pour y former mon goût. Je demandai mon congé à l'administrateur, qui ne me le donna qu'à regret, tant il avait d'affection pour moi. « Fabrice, me dit-il, aurais-tu quelque sujet de mécontentement ?»« Non, seigneur, lui répondis-je, vous êtes le meilleur de tous les maîtres, et je suis pénétré de vos bontés, mais vous savez qu'il faut suivre son étoile. Je me sens né pour éterniser mon nom par des ouvrages d'esprit. Quelle folie !» me répliqua ce bon bourgeois. Tu as déjà pris racine à l'hôpital, tu es du bois dont on fait les économes et quelquefois même les administrateurs. Tu veux quitter le solide pour t'occuper de fadaises. Tant pis pour toi, mon enfant. L'administrateur, voyant qu'il combattait inutilement mon dessein, me paya mes gages et me fit présent d'une cinquantaine de ducats pour reconnaître mes services. De manière qu'avec cela, et ce que je pouvais avoir grappillé dans les petites commissions dont on avait chargé mon intégrité, je fus en état, en arrivant à Madrid, de me mettre proprement. Ce que je ne manquais pas de faire, quoique les écrivains de notre nation ne se piquent guère de propreté. Je connus bientôt Lope de Vega Carpio, Miguel Cervantes de Saavedra et les autres fameux auteurs. Mais préférablement à ces grands hommes, je choisis pour mon précepteur un jeune bachelier cordouan, l'incomparable Don Luis de Góngora, le plus beau génie que l'Espagne ait jamais produit. Il ne veut pas que ses ouvrages soient imprimés de son vivant. Il se contente de les lire à ses amis. Ce qu'il a de particulier, c'est que la nature l'a doué du rare talent de réussir dans toutes sortes de poésies. Il excelle principalement dans les pièces satiriques. Voilà son fort. Ce n'est pas comme Lucilius, un fleuve bourbeux qui entraîne avec lui beaucoup de limon. C'est le Tage, qui roule des eaux pures sur un sable d'or.
Tu me fais un beau portrait de ce bachelier. Et je ne doute pas qu'un personnage de ce mérite-là n'est bien des envieux.
Oh, tous les auteurs tant bons que mauvais se déchaînent contre lui. Il aime l'enflure, dit l'un, les pointes, les métaphores et les transpositions. Sévère, dit un autre, ont l'obscurité de ceux que les prêtres saliens chantaient dans leur procession et que personne n'entendait. Il y en a même qui lui reprochent de faire tantôt des sonnets ou des romances, tantôt des comédies, des dizains et des literies, comme s'il avait follement entrepris d'effacer les meilleurs écrivains dans tous les genres. Mais tous ces traits de jalousie ne font que s'émousser contre une muse chérie des grands et de la multitude. C'est donc sous un si habile maître que j'ai fait mon apprentissage. Et j'ose dire qu'il y paraît. J'ai si bien pris son esprit que je compose déjà des morceaux abstraits qu'il avouerait. Je vais à son exemple débiter ma marchandise dans les grandes maisons où l'on me reçoit à merveille, où j'ai affaire à des gens qui ne sont pas fort difficiles. Il est vrai que j'ai le débit séduisant, ce qui ne me nuit pas à mes compositions. Enfin, je suis aimé de plusieurs seigneurs et je vis surtout avec le duc de Medina Sidonia comme Horace vivait avec Mécénas. Voilà de quelle manière j'ai été métamorphosé en auteur. Je n'ai plus rien à te conter. C'est à toi, Gil Blas, à me chanter tes exploits.
Alors je pris la parole et, supprimant toute circonstance indifférente, je lui fis le détail qu'il demandait. Après cela, il fut question de dîner. Nous trouvâmes le vin si bon qu'il fallut tirer de l'armoire une seconde bouteille. Entre la poire et le fromage, je lui témoignai que je serais bien aise de voir quelqu'une de ses productions. Aussitôt, il chercha parmi ses papiers un sonnet qu'il me lut d'un air emphatique. Néanmoins, malgré le charme de la lecture, je trouvais l'ouvrage si obscur que je n'y compris rien du tout. Et il s'en aperçut.
Ce sonnet ne te paraît pas fort clair, n'est-ce pas ?
Je lui avouai que j'y aurais voulu un peu plus de netteté.
Si ce sonnet n'est guère intelligible, tant mieux. les sonnets, les odes et les autres ouvrages qui veulent du sublime ne s'accommodent pas du simple et du naturel. C'est l'obscurité qui en fait tout le mérite. Il suffit que le poète croie s'entendre.
Tu te moques de moi, mon ami. Il faut du bon sens et de la clarté dans toutes les poésies, de quelque nature qu'elles soient. Et si ton incomparable Gongora n'écrit pas plus clairement que toi, je t'avoue que j'en rabats bien. C'est un poète qui ne peut tout au plus tromper que son siècle. Voyons présentement de ta prose. Fabrice me fit voir une préface qu'il prétendait, disait-il, mettre à la tête d'un recueil de comédies qu'il avait sous la presse. Ensuite, il me demanda ce que j'en pensais. « Je ne suis pas plus satisfait de ta prose que de tes vers. Ton sonnet n'est qu'un pompeux galimatia. Et il y a dans ta préface des expressions trop recherchées, des mots qui ne sont point marqués au coin du public, des phrases entortillées, pour ainsi dire. En un mot, ton style est singulier. Les livres de noms bons et anciens auteurs ne sont pas écrits comme cela. »
Oh, pauvre ignorant! Tu ne sais pas que tout prosateur qui aspire aujourd'hui à la réputation d'une plume délicate affecte cette singularité de style, ces expressions détournées qui te choquent. Nous sommes 5 ou 6 novateurs hardis qui avons entrepris de changer la langue du blanc au noir. Et nous en viendrons à bout, s'il plaît à Dieu, en dépit de Lope de Vega, de Cervantes et de tous les autres beaux esprits qui nous chicanent sur nos nouvelles façons de parler. Nous sommes secondés par un nombre de partisans de distinction. Nous avons dans notre cabale jusqu'à des théologiens. Après tout, notre dessein est louable. Et le préjugé à part, nous valons mieux que ces écrivains naturels qui parlent comme le commun des hommes. Je ne sais pas pourquoi il y a tant d'honnêtes gens qui les estiment. Cela était fort bon à Athènes et à Rome, où tout le monde était confondu. Et c'est pourquoi Socrate dit à Alcibiade que le peuple est un excellent maître de langue. Mais à Madrid, nous avons un bon et un mauvais usage. Et nos courtisans s'expriment autrement que nos bourgeois. Tu peux m'en croire, enfin, notre style nouveau l'emporte sur celui de nos antagonistes. Tiens, je veux par un seul trait te faire sentir la différence qu'il y a de la gentillesse de notre diction à la platitude de la leur. Il dirait par exemple, tout uniment, « Les intermèdes embellissent une comédie. » Et nous, disons, plus joliment, « Les intermèdes font beauté dans une comédie. » Remarque bien ce « font beauté ». On sent-tu tout le brillant, toute la délicatesse, tout le mignon.
Va, Fabrice, tu es un original avec ton langage précieux.
Et toi, tu n'es qu'une bête avec ton style naturel.
Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté, à travers cette évocation de l'œuvre de Le Sage, une sorte d'éloge de la distance, de l'ironie et surtout de la discrétion dont on a tant besoin aujourd'hui. Et puis, bonne lecture.